Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va découvrir un intérêt pour une profession qui va finalement s'estomper, une difficulté à assumer finalement qu'on s'est peut-être trompé de voie, mais, et bien sûr, parce que c'est une femme d'aujourd'hui, un rebondissement extraordinaire. On y va pour les détails.
Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Nadia Hilali, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Nadia?
Eh bien, ça va très bien. Merci beaucoup. Merci de me recevoir.
Un plaisir de te recevoir, justement, une femme aux multiples vies professionnelles. C'est bien ça?
Tout à fait.
Oui. Alors, justement, on va essayer de creuser tout ça. Alors, Nadia Hilali, toi, tu as grandi en France.
Oui, c'est bien ça.
C'est bien ça.
Je suis née à Paris.
Tu es née à Paris.
J'ai grandi à Paris et jusqu'à mes 20 ans.
Et tu as toujours gardé un lien extrêmement proche avec le pays d'origine.
Oui, avec Paris, Bruxelles aussi, c'est mes deux villes de cœur, et Londres notamment aussi, où j'ai pu y vivre un peu moins d'une dizaine d'années avant de venir au Maroc.
Ben justement,
oui,
voilà.
Ça.
Alors, une première carrière professionnelle dans...
La traduction.
Et l'interprétariat, c'est le mot que je cherchais, voilà. combien d'années dans ce domaine d'activité?
Une quinzaine d'années.
Ok. Alors quand on
j'ai
dit
travaillé une quinzaine d'années, oui.
Et quand on dit qu'aujourd'hui ce domaine d'activité est menacé par l'IA, est-ce que tu y crois?
Ah, je confirme totalement. Je confirme totalement parce que pendant que je travaillais, on était très conscients. Nous, on travaille en quelque sorte à nourrir la bête qui est l'intelligence artificielle aujourd'hui depuis une quinzaine d'années déjà. Mm. C'est-à-dire que nous, on savait en quelque sorte, petit à petit, que notre travail était menacé, puisqu'on mettait en mémoire tout ce qu'on faisait. On travaillait dans des logiciels de traduction assistée et donc on savait très bien qu'on allait vers une petite mort. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai pris les devants et que je me suis reformée à un autre métier.
Oui.
Et en plus, notre métier changeait. Si tu veux, c'était beaucoup plus intéressant avant. Quand on allait vers la traduction, il y avait tout un processus intellectuel. Le métier était une chose. Aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Depuis quelques années, c'est corriger ce que la machine traduit. Donc, c'était plus du tout le même mécanisme. C'était plus du tout intéressant pour nous. Et ça devenait complètement mécanique. Et on l'a vu. On l'a anticipé. Donc, on l'a vu venir. Et aujourd'hui, je peux vraiment dire haut et fort, oui, l'intelligence artificielle fait du très, très bon travail. Et c'est très compliqué de contrer ça.
Alors, quand tu dis nourrir la bête, je ne comprends pas, parce que pour nous, l'IA date de ChatGPT, c'est quoi, 3 ans de vie? Ça veut
oui,
dire quoi, justement,
oui.
pour toi
dans... Les prémices de ChatGPT, on nourrissait la bête parce que on mettait toutes nos traductions dans des logiciels de mise en mémoire. Ce que fait ChatGPT, quand vous lui parlez, il met en mémoire. Donc, il mettait en mémoire nos expressions, notre façon de parler, notre façon de traduire. Donc, il a mis, on mettait en superposition les textes ensemble. Et donc, voilà, ça a été un long travail de mise en mémoire. Aujourd'hui, la bête est puissante. Mmh. Imaginez un traducteur en Amérique latine, tous les traducteurs dans le monde faisaient ça en même temps. Donc, c'est ce que j'appelle avoir nourri la bête pendant toutes ces années. C'est ce qui s'est passé.
Mais justement...
concepteurs de logiciels ont bien entendu vendu ces mémoires de traduction à ceux qui produisent aujourd'hui les nouvelles applications.
Ouais, mais à ce moment-là, je pense que le corps professionnel ne se rendait pas compte, en fait, qu'il nourrissait la bête.
Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Ce dont on se rendait compte, c'est que notre travail changeait. Notre travail était en train de changer. Alors, il y en a qui ont accepté, c'est-à-dire qu'il y en a qui étaient ravis de travailler de cette manière-là. Moi, personnellement, ça ne m'intéressait plus de corriger ce qu'une machine produit. Mm. C'est plus du tout la même chose, il n'y a plus le même plaisir de jouer avec la langue, c'est plus du tout pareil. C'est plus le même métier, en fait.
Ouais. Jouer avec la langue, c'est ça la traduction?
Bah oui, c'est aussi pouvoir traduire à sa manière. Il n'y a pas une seule façon de traduire. Donc voilà, c'est ce que j'entends par là. Il y a aussi un jeu avec la langue, c'est comme un plaisir. Quand on fait de la traduction, c'est parce qu'on a un amour pour la langue au départ.
Absolument.
Voilà.
Voilà. Alors, à quel moment tu as pris conscience que le métier changeait et que finalement, c'était plus pareil et qu'il fallait aller vers autre chose?
Très rapidement, en réalité, parce que je ne suis pas diplômée dans les années 60. J'étais diplômée en 2006, quelque chose comme ça. Donc, il y avait déjà, j'étais déjà formée à l'ingénierie de la langue et tous les outils informatiques. Donc, très rapidement, le seul souci, c'est qu'on s'installe dans une profession, on arrive sur un marché un peu, voilà, c'était la crise des subprimes au moment où on arrivait sur le marché, donc bon, on a un boulot, on s'y tient, et puis c'est tout. Et à ce moment-là, petit à petit, c'est long, c'est un long processus d'admettre qu'on s'ennuie dans son travail.
Oui, surtout quand on vient de commencer.
C'est ça, et ça paye les factures, et ça paye pas trop mal, c'est plutôt bien payé, on est indépendant, donc on s'habitue à l'indépendance, il n'y a personne au-dessus de soi, donc c'est quand même un certain luxe, on est libre, on voyage quand on veut, donc il y a aussi tous ces facteurs-là. Mmh. Et puis quand on est une femme aussi, c'est plutôt pratique, on ne dépend pas d'horaires fixes, même si le boulot est assez exigeant parfois. On reste libre et donc il y a aussi des avantages. Donc le temps, le processus est long pour dire voilà, je ne peux plus faire ça. Mmh. C'est une identité aussi. Quand on a fait de longues études pour ça, c'est très compliqué d'aller dire voilà, en fait ça ne me plaît pas du tout, je me suis plantée.
Ouais.
C'est pas qu'on s'est planté, il y a aussi l'évolution. Et donc c'est tout un tas de facteurs qui font que plus ou moins avant Covid, j'ai décidé d'entamer une reconversion en fait.
Mmh.
Reconversion. Mais avant d'arriver à ma reconversion, j'ai fait d'autres choses. Et
d'autres
voilà.
choses comme quoi?
Ben, j'ai lancé une petite maison d'hôtes. Oh. Et puis j'ai aussi ouvert un magasin de vintage. Donc, ce que je pouvais faire à l'époque, parce que j'avais un certain confort. Et puis, pendant Covid, j'ai terminé, un petit peu avant Covid, j'ai terminé les études. J'ai repris les études bien avant et pour finir pendant Covid.
Alors,
j'ai repris les études et oui.
C'est justement ces autres projets. C'était comme c'était le moment où tu te cherchais encore. Tu savais pas encore ce que tu voulais
oui,
faire.
Oui, mais alors en fait, c'est pas ça. C'est que là, je me cherchais pas dans les projets. J'étais vraiment en roue libre, c'est-à-dire que j'ai laissé ma créativité s'exprimer et tout ce que j'avais envie de faire.
Ouais.
Parce que j'avais envie d'être dans le désir pur. Et donc, ça s'est fait. J'ai mis en application des choses que je savais faire, un peu comme on a tous des hobbies, des petites choses comme ça qu'on sait faire, comme décorer l'intérieur ou bien un œil pour choisir, dénicher. J'aime bien chiner, j'adore ça depuis toujours. Donc voilà, j'ai pu vraiment faire des projets plaisir.
Oui.
Et donc, je me suis mise à fond et ça m'a permis de me dire, bah voilà, en fait, t'es capable de sortir de cette identité. C'est pas figé dans un rôle et de mettre en application, justement, ça permet de voir.
Oui.
Parce qu'on peut rêver longtemps, ça fait toujours un peu peur de se lancer. Et j'avais pas de pression parce que il y avait pas d'études. J'ai pas fait des études pour la décoration. J'ai pas fait des études dans le commerce ou quoi. Donc c'était plutôt agréable. C'était agréable de pouvoir se lancer sans pression.
Et c'est ça en fait qui est compliqué, c'est de pouvoir se détacher du titre, de la position que nous
Exactement.
Avions, voilà, et qu'on a construit pendant tellement d'années. Ça c'est le plus compliqué en fait.
C'est le plus dur et en même temps il y a aussi l'entourage. On vit en société, donc le regard de l'autre est important. Mmh. Même si on veut s'en détacher, ça reste important. Ce que disent les personnes qui vivent dans notre entourage, c'est important et donc ça fait partie de notre identité.
Ouais.
Donc quand on vous dit « mais tu vas quitter un métier prestige », entre guillemets, hein, bien sûr, quitter un métier prestige pour aller vendre des vêtements, bon, c'est vrai que voilà, après il faut se construire et ça se travaille. Le changement.
C'est comme un sevrage.
C'est ça. Aussi.
C'est comme un sevrage, en fait. Accepter de plus être identifié par une certaine position,
c'est
se
ça.
Détacher du regard des autres. Tout ça, c'est...
Et surtout quand elle ne nous plaît plus, quand elle ne nous plaît plus et qu'elle ne nous plaisait pas, en fait, depuis bien longtemps. Il faut savoir l'admettre et pour se réaligner, entre guillemets. Ça prend du temps de se réaligner.
Absolument.
Ça prend beaucoup de temps et il faut tester parfois beaucoup de choses. Certaines personnes ont la chance de trouver tout de suite ce qu'elles aiment. Mais d'autres, il faut tâter le terrain en fait. On peut tergiverser des heures, mais si on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. De mon point de vue, moi j'ai adoré cette expérience dans le commerce, j'ai adoré ça. Mais voilà, je l'ai fait. Et puis c'est, aujourd'hui, je le fais, mais à petite dose. Ce n'est pas ce que je veux faire tout le temps.
Tout le temps.
On a le droit de changer d'avis.
C'est ça le truc.
C'est ça que je veux dire.
C'est ça. C'est ça, on a le droit de changer d'avis jusqu'à se trouver.
Oui, tout à fait.
Alors, tu as dit une chose très importante. Tu as dit ça se travaille. Et c'est aujourd'hui ce que tu proposes, justement. Parce que tu as fait...
Oui,
aujourd'hui, tu es thérapeute.
Oui, c'est thérapeute systémique et stratégique.
Ça veut dire
bon, c'est, voilà. Alors, comme je te disais, je me suis reconvertie. Donc, j'ai fait des études de psychologie en parallèle. Et puis, j'ai aussi appris l'approche de Palo Alto, qui est une approche très pragmatique. Donc, pour ne pas ennuyer tes auditrices...
Non, pas du tout.
C'est une forme de thérapie cognitivo-comportementale, mais... plus pragmatique, on va dire. On travaille dans le ici et le maintenant, entre la thérapie et le coaching. C'est les deux, hein. C'est pas complètement séparé, c'est de la thérapie. On ne peut pas dire le contraire, parce que je traite des sujets anxieux, de dépression, de choses comme ça. Mais on ne pathologise pas la personne. C'est-à-dire que la personne, elle vient avec un problème, on est là pour le résoudre dans le ici et le maintenant, en fonction de ses interactions et du système dans lequel elle vit, dans son écologie, donc sa famille, son entourage, etc. Et voilà.
Alors,
si je peux faire un peu bref.
Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas d'analyse profonde.
Alors, en fait, on ne va pas s'amuser à analyser le passé, sauf si nécessaire dans le cas de trauma, mais on ne va pas s'amuser à parler du passé pendant des heures et des heures ou des semaines et des semaines ou des années et des années. C'est de la thérapie brève. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment le problème fonctionne et non pas pourquoi il est là.
D'accord.
Okay. C'est comment il fonctionne aujourd'hui et comment il se maintient, surtout parce que quand les personnes viennent, c'est parce qu'elles sont bloquées. Mmh. C'est pas tant le problème, j'ai envie de dire, c'est comment il fonctionne et ce que la personne, elle met en place pour le régler. C'est souvent la solution tentée qui est le problème. Donc okay. Nous, on va aller un peu taper dans ce que la personne fait pour le régler, puisque visiblement, ça ne marche pas.
Mmh. C'est quand on entend... Quand on entend...
J'arrive... Du coup, on travaille tout ça ensemble et je donne des prescriptions entre chaque séance. Donc la personne, elle est vraiment actrice de son changement. Ouais. Ça, c'est d'une évidence...
Ça, c'est quand on entend « Aidez-moi, je ne sais plus quoi faire, en fait. Je ne sais plus comment gérer cette situation. »
Absolument. Mmh. En général, la personne, elle a tenté plein de choses, parfois même de l'analyse. J'ai rien contre la psychanalyse, hein, je trouve ça merveilleux, mais c'est pas du tout le même principe, en fait. C'est pas du tout la même chose. Voilà, ça peut être très aidant pour certaines personnes de comprendre, etc. Pour celles qui ont le luxe de se permettre de travailler ça pendant des années, pourquoi pas ? Moi, je trouve ça. Moi, j'adore ça. Hein. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Mais nous, c'est de la thérapie brève. A priori, au bout de la cinquième séance, il y a quand même vraiment des résultats visibles parce que la personne met en place des changements dans son quotidien qui font qu'elle a ce qu'on appelle chez nous une expérience émotionnelle correctrice et qui lui permet d'agir différemment et de faire réagir les autres autour d'elle.
C'est ça. C'est le changement qui impacte, c'est ce fameux effet papillon, en fait.
Exactement, tu as tout compris. C'est ça.
Est-ce que, justement, le fait d'avoir repris tes études, fait cette formation, t'a permis aussi de comprendre ton fonctionnement pendant toutes ces années?
Ah oui, c'est passionnant. C'est passionnant. Vraiment, c'est... Alors, on n'a jamais le recul nécessaire. Toujours, et c'est là où je trouve ça merveilleux, c'est que l'IA ne pourra jamais remplacer les thérapeutes. Ça, je peux le dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des réponses avec l'IA, on peut discuter, mais on ne remplace pas un être humain et l'alliance thérapeutique qui peut se créer entre deux personnes, parce qu'elle est unique.
En fait, tu as été chercher un boulot que l'IA ne pourra pas... envahir.
c'est ça. Et puis aussi, un boulot qui a plus de sens pour moi, évidemment.
Ouais.
Qui a plus de sens. J'ai toujours été un peu dérangée par les métiers passion, parce que je n'avais pas de passion. Moi, je fais partie de ces personnes qui aiment beaucoup de choses, et donc pour lesquelles c'est compliqué de se dire je peux faire que ça et ça toute ma vie. Quand j'avais 14 ans, moi, je voulais faire, je disais, je veux avoir 1000 boulots dans la vie.
Ouais.
Donc c'est compliqué, il faut accepter aussi ça, il faut l'accepter, il faut accepter de changer, il faut être authentique, il faut être honnête avec soi-même, donc c'est pas un souci d'aimer plein de choses. L'idée, c'est d'y aller à fond et honnêtement, et puis de savoir c'est autre chose quand il faut passer à autre chose.
Alors,
et donc voilà.
Quand on reprend une nouvelle vie, une nouvelle activité professionnelle à 40 ans passés, est-ce que c'est une renaissance ?
Alors, c'est une renaissance si tant est qu'on n'a pas de difficultés autour.
Ouais.
Ça reste un luxe quand même, il faut se le dire. Hein. Ça reste un luxe que par moment j'ai pu mettre, en vie. Par moment, ça a été difficile. Si tant est qu'on n'a pas 14 enfants ou un divorce au milieu, ça complique les choses. Il faut le dire pour les femmes, parce que je reçois des femmes qui sont entrepreneurs en plein divorce.
Oui.
Hein, c'est compliqué quand même. Ils décident de faire leur reconversion. Et souvent, tu le sais bien, Yasmine, les reconversions, ça arrive à cet âge-là.
Oui.
On commence à s'aligner un peu, à dire voilà, moi, tout ça, c'est plus pour moi. Je veux faire un métier qui me ressemble un peu plus ou entreprendre quelque chose qui me botte. Et ça, en général, c'est quand on a quand même passé une certaine maturité. Et malheureusement, ça arrive. En même temps que justement tout ce qui est divorce, séparation, etc. Et donc, parfois, on est contrainte, je suis contrainte de faire avec mes clientes, mes patientes, nous on appelle ça des clientes en thérapie systémique, mais peu importe, de tout mettre à plat, il faut être honnête, voilà, parfois ce n'est pas possible. Les reconversions, c'est bien, c'est génial, c'est une belle façon de s'aligner, mais il faut aussi qu'autour, ce soit possible. Donc, c'est des challenges qu'on ne nie pas.
Ouais.
Ce sont des challenges.
Alors, ça, c'est en général, mais pour toi en particulier
Moi en particulier, ce qui s'est passé pour moi ?
Cette reconversion, justement, c'est une renaissance,
ouais.
Mais c'est aussi
un
nouveau
moi,
démarrage dans l'absolu.
C'est un réalignement.
Ouais.
C'est un réalignement, vraiment, c'est un réalignement avec ce que je suis vraiment, ce qui me correspond vraiment, en fait, ce que je sais faire naturellement et aussi. Bah, j'ai dû apprendre aussi beaucoup de choses. Et on continue d'apprendre tout le temps parce qu'il y a des nouveaux problèmes qui naissent, notamment en ce qui concerne les relations amoureuses, avec le online, les comportements, toutes les problématiques qui viennent d'Internet aussi, avec les jeunes, les moins jeunes et la nouvelle façon de se rencontrer, etc. On est tout le temps en apprentissage, en fait. Mais me concernant moi personnellement, oui, c'est on peut dire renaissance, mais surtout réalignement, je dirais.
Renaissance, réalignement, mais j'ai envie aussi de comprendre comment ça se joue en toi, cette renaissance où finalement c'est une nouvelle identité qui se crée, c'est une nouvelle réputation qu'on se fait.
Oui, il y a aussi beaucoup une histoire de posture, savoir prendre sa nouvelle posture et ne pas avoir effectivement le syndrome de l'imposteur. C'est compliqué quand on a été figé dans une identité pendant une quinzaine d'années, 20 ans, 30 ans, enfin tout dépend, et ensuite de passer à autre chose. Mais passer, hein, je dirais que il y a aussi à nos âges, je dirais pour moi, j'ai 42 ans, il y a aussi la maturité et il y a l'expérience. Je trouve que dans les métiers comme le mien, je ne dis pas que les jeunes thérapeutes ne sont pas légitimes, mais il y a des choses qui n'ont pas été vécues. À partir d'un certain âge, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été vécues et ça compense un petit peu cette histoire de non-légitimité, hein, cette histoire de posture, de syndrome de l'imposteur, etc. Il y a des sujets où je me sens très, très légitime. Très légitime.
Alors, dans aucune de tes réponses, je n'ai entendu « oui, c'est compliqué de démarrer à zéro, etc. » Ça veut dire que tu ne le ressens pas, tu refuses de…
Alors, parce que je suis un petit peu une forcenée et que j'ai toujours redémarré toute ma vie. Comme je te disais, moi, j'aime beaucoup de choses, donc je l'ai beaucoup fait, mais c'est très difficile.
Ouais.
Non, bien sûr que c'est très difficile. Ce n'est pas facile du tout. C'est pas du tout facile. C'est une question d'état d'esprit, de savoir s'entourer, de savoir à qui parler, à qui ne pas parler. Parce que, voilà, il ne faut pas oublier, comme j'en avais parlé dans une autre interview, que les gens renvoient aussi leurs propres peurs. Ils ne transfèrent leurs propres angoisses.
Ouais.
Donc ça
par
aussi,
rapport
on doit
au changement.
Savoir s'en détacher. Mais bien sûr, bien évidemment, c'est de ça dont je parle. C'est que les gens viennent transférer sur nous leurs propres peurs. Ce qu'ils voient, eux, ce qu'ils envisagent, eux, ce qu'ils anticipent, eux, et ça, il faut savoir s'en protéger. Et voilà, c'est un travail. La reconversion professionnelle, bien sûr, j'allais prendre l'expression chrétienne, je prêche pour ma paroisse, mais évidemment, on vient vers moi aussi pour les problématiques de reconversion. Et j'adore, c'est une de mes problématiques préférées, bien entendu. Je trouve que c'est bien de se faire accompagner aussi. c'est une bonne chose de se faire accompagner dans la reconversion. Parce qu'il y a tout un tas de challenges, effectivement.
Absolument.
Il y a beaucoup. Et dans la reconversion, il y a tout qui se joue. Il y a le changement d'identité, de posture, les loyautés familiales invisibles. Tout se joue dans la reconversion sur le plan psychologique. Donc, c'est là où ce n'est pas évident, effectivement, comme tu dis. Et qu'il est important soit d'avoir les nerfs solides, soit de bien se faire accompagner.
Tout à fait, absolument. Ben, Nadia Hilali, on te souhaite tout le courage du monde et toute la réussite du monde et toute la beauté de cet alignement dont tu parles.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.